Lui. À Washington.
Voilà, bonsoir à tous. Les grands points de l'actualité dans ce monde aujourd'hui présentés par Bagassi Kouraï, Idrissa Seydoudia. Bonsoir Idrissa.
Bonsoir Bagassi.
On commence par la Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana vient de battre l'Algérie 1-0 et à 19h, le Sénégal affronte les Bafana Bafana. Tous les détails dans le journal de la CAN.
En RDC, en République démocratique du Congo, le Sénat a voté un texte du projet de loi supprimant l'obligation d'un recensement avant les prochaines élections.
L'Assemblée nationale va exercer son droit du dernier mot, c'est-à-dire que c'est la version admise par l'Assemblée nationale qui va prévaloir.
Un RCA célébration aujourd'hui du premier anniversaire de l'accession de Catherine Samba-Panza à la tête de la transition. Et signalons que l'humanitaire française Claudia Priest, qui avait été enlevée, a été libérée.
Au Rwanda, deux policiers ont été condamnés jeudi à 20 ans de prison pour l'assassinat en juillet 2013 d'un militant anticorruption travaillant pour Transparency International.
L'Arabie Saoudite en deuil après la mort la nuit dernière du roi Abdallah. Et nous aurons bien sûr le journal de la CAN avec Nicolas Pinon et la page économie avec Jacques Aristide. Mais d'abord, le journal.
En République démocratique du Congo, le Sénat a voté un texte du projet de loi supprimant l'obligation d'un recensement avant les prochaines élections. Ce texte diverge avec celui voté en début de semaine par l'Assemblée nationale. Que se passera-t-il donc? Eddy Sango a posé la question au constitutionnaliste Christophe Lutundula, membre de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale congolaise et membre de la majorité.
La Constitution prévoit, en son article 135, qu'en pareille circonstance, les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée, constituent une commission paritaire mixte qui va examiner les divergences pour les aplanir de manière à proposer un texte unique dans les mêmes termes, conformément évidemment aux prescrits constitutionnels. Ce qui veut dire que certainement, demain samedi, la commission paritaire va se réunir parce que la session en principe se termine le lundi à minuit. À l'issue de la commission paritaire, un texte commun devra être proposé. Un texte qui tienne compte à la fois des aspirations de la population et des exigences constitutionnelles.
Christophe Lutundula, membre de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale congolaise et membre de la majorité.
En Centrafrique, l'humanitaire française Claudia Priest, 67 ans, qui avait été enlevée lundi à Bangui par des miliciens anti-Balaka, a été libérée. C'est ce qu'annoncent les autorités françaises. Un collègue centrafricain de Mme Priest a enlevé en même temps qu'elle a également été libérée, selon les autorités françaises citées par l'AFP. Catherine Samba-Panza, qui commémorait aujourd'hui le premier anniversaire de son accession à la tête de la transition, a dénoncé cette prise d'otage par des anti-Balaka. Le point avec Timothée Donangmaï.
Très à l'aise devant la presse nationale et internationale, la présidente centrafricaine de la transition a dressé un bilan positif de ses 12 premiers mois aux affaires de l'État, citant entre autres exemples un modèle de cohésion sociale au sommet de la transition, un gouvernement inclusif composé de toutes les sensibilités, la restauration progressive de l'autorité de l'État, le paiement presque régulier des salaires des fonctionnaires, pensions, bourses et vacations, l'arrestation du Tchadien Babalade, de Dominique Ongwen de la LRA et du chef de milice Rodrigue Ngaibona, alias général Andilo, la chef de l'État a condamné avec la dernière rigueur la prise d'otage de deux humanitaires à Bangui par des proches d'Andilo.
On ne peut imaginer que des individus puissent kidnapper pour obtenir en monnaie de change la libération d'un personnage qui est soupçonné d'un certain nombre de forfaits. Je répète, nous condamnons le kidnapping par les anti-Balaka de cette dame. Nous sommes en négociation pour leur dire qu'ils n'ont pas intérêt à durcir leur position, ce qui compliquerait davantage leur situation.
Au sujet de la rencontre des groupes centrafricains de Nairobi, Mme Samba-Panza n'est pas passée par quatre chemins pour fustiger cette initiative qui, selon elle, n'engage que ceux qui y étaient.
Au Nigeria, la commission électorale a assuré que les élections législatives et présidentielles auront bien lieu le 14 février. C'est ce que rapporte l'AFP. Le conseiller national à la sécurité du Nigeria, Sambo Dasuki, avait déclaré jeudi que les élections devaient être reportées parce que 30 millions de cartes d'électeurs n'avaient toujours pas été distribuées.
En Zambie, c'est Edgar Lungu qui arrive en tête de l'élection présidentielle. D'après les tout derniers résultats, la commission électorale zambienne a déclaré que le candidat du Front patriotique parti au pouvoir a obtenu un peu moins de 49% des voix. Son poursuivant immédiat, Hakainde Hichilema, du Parti uni pour le développement national, a lui obtenu un peu moins de 47%. Les résultats définitifs seront proclamés ce samedi.
Au Rwanda, deux policiers ont été condamnés hier, à 20 ans de prison pour l'assassinat en juillet 2013 d'un militant anticorruption travaillant pour Transparency International. Félix Yepasizembro.
Gustave Makonene, qui travaillait pour l'ONG Transparency International dans le nord-ouest du Rwanda, avait été retrouvé mort étranglé en juillet 2013 sur une route près du lac Kivu. Il enquêtait sur le commerce illégal de minerais et des allégations de corruption dont certaines impliquaient des membres de la police. Selon le journal pro-gouvernemental The New Times, le parquet rwandais a requis la perpétuité contre les deux policiers qui avaient avoué avoir tué M. Makonene, car il était au courant de leur implication dans de la contrebande de minerais depuis la République démocratique du Congo voisine. Le directeur de Transparency Rwanda a salué le fait que les coupables aient été poursuivis, mais il s'est étonné d'une peine qu'il qualifie de très clémente. Selon lui, les deux hommes ayant reconnu avoir prémédité leur acte auraient dû écoper de la prison à vie. Le tribunal a indiqué que leurs aveux et leur coopération avec la police leur avaient permis d'obtenir une réduction de la peine. Transparency International Rwanda n'exclut pas de faire appel de la décision.
En Sierra Leone, le président Ernest Bai Koroma a annoncé hier soir la levée des mesures de quarantaine contre Ebola. Signe que l'épidémie est en recul. Une bonne nouvelle pour ce pays qui reste le pays où l'on enregistre le plus grand nombre de cas, Claire Morin-Jubo.
La Sierra Leone, qui compte 6 millions d'habitants, avait placé en quarantaine 6 de ses 14 provinces, soit près de la moitié de la population. Une quarantaine entrée en vigueur après l'instauration de l'état d'urgence fin juillet 2014 pour lutter contre l'épidémie Ebola qui y a fait depuis plus de 3100 morts. Le président Koroma a annoncé que les restrictions au mouvement des populations seront allégées pour soutenir les activités économiques. Des mesures mises en vigueur immédiatement. Rappelant l'objectif de zéro cas d'ici le 31 mars, il a confirmé la suppression des primes de risque pour les soignants impliqués dans la lutte contre Ebola fin mars et la préparation de la réouverture des classes pour les 3e et 4e semaines de mars. Le président Koroma a toutefois averti que le combat n'était pas terminé. La population doit rester vigilante et continuer d'appliquer les mêmes mesures d'hygiène et de prévention. En particulier, ne pas toucher les malades et les morts d'Ebola. Ernest Bai Koroma a fini sur une note très positive. La victoire est en vue, a-t-il déclaré.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les funérailles du roi Abdallah d'Arabie Saoudite ont eu lieu ce vendredi, quelques heures après l'intronisation d'un nouveau roi et d'un prince héritier, une succession rapide qui vient dissiper les craintes d'instabilité dynastique dans un contexte de vives tensions au Moyen-Orient. Nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure.
Et puis l'incertitude continue de prévaloir au Yémen quant à l'avenir de ce pays. Son parlement, dit-on, ne se prononcera que dimanche sur l'acceptation ou non de la démission du président Abdel Rabou Mansour Hadi.
Un nombre indéterminé de soldats libanais ont été tués et blessés vendredi dans des affrontements avec des hommes armés venus de l'autre côté de la frontière avec la Syrie. C'étaient les accrochages les plus violents depuis ce août dernier dans la région d'Arsal entre l'armée et des djihadistes venus de Syrie.
Voilà, et maintenant le journal de la CAN avec Nicolas Pinot.
Le roi Abdallah, un allié de longue date des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme islamique.
Bienvenue. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. L'Algérie chute, le Sénégal joue dès 19h, temps universel. Dans le groupe C à Mongomo, l'Algérie était opposée au Ghana ce soir, alors qu'on se dirigeait vers un match nul 0-0, assez logique au vu du match. Le Ghana s'impose dans les dernières secondes. Les Black Stars avaient besoin d'une victoire pour rester dans la course à la qualification. Ils ont été libérés par un but de leur capitaine Asamoah Gyan. Le score final donc, 1-0. Autre rencontre qui débute ce soir à 19h, temps universel, Sénégal, Afrique du Sud. Retour à présent sur les matchs du groupe B hier à Ebebiyin. La Tunisie est première de ce groupe après sa victoire sur le fil face à la Zambie de 1. Les Aigles de Carthage comptent 4 points en 2 matchs et 2 longueurs d'avance sur la RDC et le Cap-Vert. Ces deux équipes se sont neutralisées hier 0-0. Kidiaba, le gardien congolais, a sauvé son équipe à de nombreuses reprises. Compte rendu sur place de Thierry Kambundi.
Un seul tir cadré en 90 minutes, insignifiant pour espérer quelque chose côté congolais face à une équipe capverdienne qui, elle, a buté à 3 reprises sur un Robert Kidiaba de grand jour. Le gardien du tout-puissant Mazembe, dont c'est la dernière CAN, revient sur ses 3 arrêts décisifs.
J'étais prêt, c'est pour cela que j'ai fait sortir 3 ballons décisifs. Vraiment, il faut que je continue toujours comme ça à me concentrer.
Les Congolais ont manqué d'envie et d'ambition dans le jeu. Youssouf Moulumbu, le capitaine des Léopards de la RDC sorti sur blessure, n'a pas reconnu son équipe.
Aujourd'hui, on n'a pas montré le vrai visage du Congo. On avait l'air triste alors qu'on sait qu'on aime jouer au football, on aime attaquer. Et aujourd'hui, on ne l'a pas fait, donc on n'a pas gagné le match et c'est dommage.
Côté capverdien, on regrette surtout les occasions manquées qui pouvaient permettre aux Requins Bleus de marquer et remporter ce match. Ryan Mendes est attaquant capverdien.
Je pense que ce match-là, on pouvait le gagner parce qu'on a eu les occasions pour le faire. Mais malheureusement, on n'a pas su marquer et puis le match, il est fini. Maintenant, on doit se concentrer sur la Zambie.
Et Bébéine, Thierry Kamboudi Kafouti de Top Congo FM pour VOA Afrique. Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle,
ne teste pas. Demain, à Malabo, le Cameroun affrontera la Guinée. La Côte d'Ivoire, sans Gervinho, affrontera le Mali de Seydou Keïta. Les éléphants poussifs, face au Sili National, devront montrer un autre visage sans le joueur de l'AS Rome. Le sélectionneur Hervé Renard en est conscient et devrait faire débuter la rencontre par la paire Seydou Doumbia-Wilfried Boni. Le coup de sifflet, tout de suite, de Jules Valentin Gouy.
Bonjour. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique des pronostics depuis près d'une décennie, entame la deuxième journée de la phase de poule sans avoir convaincu ses nombreux supporters. Malchanceux en 2006 et 2012, irrégulier et peu combatif en 2008, 2010 et 2013, les éléphants ont fait passer leur public par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, condamnant même un joueur de la trame de Didier Drogba à rejoindre la charrette des maudits de la compétition aux côtés d'autres monstres sacrés comme l'Algérien Mekloufi, le Camerounais Mbappé Lépé, le Malien Salif Keïta ou l'autre Ivoirien Laurent Pokou. Pour son match décisif face au Mali, la génération dorée qui conserve sa qualité malgré quelques départs peut s'inspirer de sa fin de partie contre la Guinée afin de trouver la formule idéale, celle qui consiste à avoir l'esprit de groupe en troquant sur le terrain sa blouse blanche d'ingénieur contre le bleu de chauffe de l'ouvrier. Car après tout, les seuls vainqueurs de 1992 n'étaient que des outsiders déterminés à franchir obstacle après obstacle. Et si la baisse de côte de l'équipe ivoirienne devenait le catalyseur permettant de faire diminuer la pression et libérer les énergies pour une campagne enfin achevée, la réponse à cette question commence ce samedi par un résultat probant contre le Mali. À bientôt.
Dimanche, dans le groupe A, le Congo pourrait se qualifier pour les quarts de finale. Un match nul suffit au Diable Rouge contre le Burkina Faso. Mais vous allez l'entendre, Claude Leroy, le sélectionneur des Congolais, veut jouer sans calcul.
Bon, ils sont pas au bord du gouffre. Hein. C'est une équipe solide, c'est une équipe qui est toujours aussi solide, aussi percutante, avec Pitro Ipa, les deux frères Traoré. Non, nous, il faut qu'on joue comme on a toujours joué, normalement, sans se prendre la tête, en essayant de bien jouer au foot, jouer le football qu'on sait pratiquer. Si on me demande d'assurer un match nul qualificatif, faut tout de suite me limoger, parce que ça, je sais pas le faire.
Claude Leroy, le sélectionneur du Congo.
la Minute Éco, c'est un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Jacques Aristide ce soir. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Alors on commence par la Suisse. À Davos, les investisseurs étrangers affirment ne pas être découragés par les défis africains.
Défis économiques et sécuritaires, Boko Haram au Nigeria, chute des prix des produits de base et manque d'infrastructures, mais l'Afrique demeure attrayante, c'est du moins l'avis des membres du groupe de discussion Achieving Africa's Growth Agenda, une réunion organisée dans le cadre du Forum économique mondial qui se tient à Davos, vous l'avez dit, en Suisse, jusqu'à demain samedi. Davos, là où se retrouve, comme chaque année, la planète économique et politique. Les intervenants au débat sur l'Afrique incluaient hier le président sud-africain Jacob Zuma, le président rwandais Paul Kagame, le patron de la bourse nigériane Oscar Oniema et le président de Bharti Enterprises, Sunil Bharti. Timital. Pour le président Zuma, le nombre de conflits est en diminution sur le continent et le Rwandais Kagame d'ajouter que l'Afrique est en fait relativement stable. C'est pourquoi, d'après eux, l'investissement étranger continue.
Et au Cameroun, une triste nouvelle dans le monde des affaires.
Décès ce vendredi de Françoise Fonning, la présidente du groupement des femmes d'affaires du Cameroun. L'ex-députée était plongée dans le coma après un accident de la route survenu il y a environ une semaine près de Yaoundé, d'après des médias locaux en ligne. Maire de la commune de Douala 5e et à la tête de plusieurs entreprises dans la métropole économique, Françoise Fonning était considérée comme un poids lourd du parti au pouvoir.
Voilà, maintenant vous savez tout sur l'actualité économique en Afrique. Merci Jacques.
Je vous en prie.
Idrissa Seydoudia en compagnie de Bagassi Koura. Pour cette édition du 23 janvier 2015, les dossiers du jour, Bagassi.
Oui, en République démocratique du Congo, le Sénat a amendé le projet de loi électorale. Le nouveau texte permet le recensement dans le respect des dates prévues pour les élections en fin 2016. Quand est-ce que les Congolais ont été recensés la dernière fois? Eh bien, pour un rappel, Idriss Fall a joint l'abbé Jean Bosco Bahala, il est membre de la société civile et ancien président des radios communautaires de la RDC.
À l'époque du Zaïre, hein, le dernier recensement général de la population date de l'année 1984, une trentaine d'années sans qu'on ait de données fiables sur la démographie. Et cela est vraiment regrettable parce qu'on ne peut pas planifier le développement sans cela. On ne peut pas non plus planifier des élections fiables sans que l'on connaisse les données démographiques.
Mais le pays est vaste. Est-ce que ce recensement est faisable?
Il est faisable. J'entends souvent cette phrase, le pays est vaste, il n'y a pas d'infrastructure. Mais lors de la préparation des élections de 2006, l'abbé Maloma, le président de la CEI à l'époque de la Commission électorale indépendante, avait recensé la population qui peut voter, 26 millions de personnes en moins de 4 mois. Lors des élections de 2011 également, il y a eu recensement de ceux qui pouvaient voter. On a identifié 35 millions de personnes en moins de 3 mois et demi. Nous avons la possibilité d'organiser sur le même mode le recensement de la population. Donc, lorsqu'on dit que ça va prendre 4 ans pour identifier la population, non, je ne crois pas.
Quand l'opposition, à l'époque, réclamait un recensement, le gouvernement répondait qu'il n'avait pas les moyens non plus.
Oui, j'avoue avec vous que je ne comprends pas les positions des uns et des autres actuellement parce qu'elles sont contradictoires. En 2013, l'opposition faisait son conclave et avait demandé formellement, même le vieil opposant qui s'était dit lui-même aussi l'avait demandé, qu'on puisse fiabiliser le fichier électoral à travers un recensement général de la population pour qu'on puisse savoir quel est le poids de chaque circonscription électorale et pour qu'on puisse savoir également le nombre de sièges parce que cela est conditionné par le poids démographique de chaque circonscription. Aujourd'hui, parce qu'il y a l'échéance de 2016, on voit que les uns et les autres commencent à changer d'avis. Mais à mon avis, le recensement est une chose qui doit se faire tout le temps et qui doit être continue. Il y a différencié le recensement administratif. Ce recensement où on sait le nombre d'habitants, le nombre d'électeurs possible, l'âge de chaque habitant, etc. Tout cela peut se faire à travers les circonscriptions administratives, d'autant plus qu'on vient de créer un organisme qui peut le faire, l'ONIP. Les craintes ne me semblent pas répondre à la vraie problématique.
Voilà, c'était l'abbé Jean Bosco Bahala, membre de la société civile en RDC.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Niger, la communauté chrétienne, une des principales victimes des manifestants anti-Charlie de la semaine dernière, a dans son ensemble dit qu'elle pardonne à tous les auteurs d'actes de vandalisme et de profanation de leurs églises et domiciles. Catholiques et protestantes, les structures chrétiennes ont toutefois demandé aux autorités de penser à dédommager les victimes. Suivons ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Elles ont été parmi les principales victimes des manifestations des 16 et 17 janvier dernier. Un premier bilan dressé fait état de 68 églises et maisons de chrétiens brûlées. Malgré tout, les valeurs du pardon et du respect du sacré ont été les maîtres mots de la déclaration qu'elles ont rendue publique. Révérend Sabo Achabi de l'Alliance des églises et missions évangéliques du Niger.
Demandons à chaque citoyen de ne plus s'attaquer aux lieux de prière et d'adoration dédiés à Dieu, adressant à Dieu des supplications afin qu'il accorde son pardon à tous ceux qui ont pris part à ces événements. Demandons aux chrétiens d'accorder le pardon à leurs parents, voisins et frères de sang qui ont pris part à ces douloureux événements. Appelons toute la population du Niger à se lever comme un seul homme pour promouvoir la paix et la coexistence pacifique de tous les fils et de toutes les filles de ce pays. Malgré notre profond ressentiment de nous sentir réfugiés dans notre propre pays, nous appelons vivement l'ensemble de la communauté chrétienne à demeurer résolument dans une dynamique de paix.
Les évêques catholiques ont eux aussi donné de la voix pour le pardon. Michel Kartategui, archevêque du diocèse de Niamey.
Nous sommes tous des croyants au Dieu unique, musulmans et chrétiens. Nous avons en partage un enseignement sacré que nos saints livres nous offrent, la tolérance, le respect de l'autre, l'amour du prochain. Mettons-les en pratique comme le Tout-Puissant nous y oblige et nous serons alors des artisans de paix, honorés d'avoir apporté une pierre à la construction d'une société plus juste et plus solidaire.
Depuis ces événements, les appels au calme et au pardon se multiplient à travers plusieurs déclarations publiques. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'Arabie Saoudite est en deuil après la mort la nuit dernière du roi Abdallah à 90 ans des suites d'une longue maladie. Le souverain saoudien a été inhumé ce vendredi, quelques heures seulement après l'intronisation de son successeur, le roi Salman.
Le roi était un allié stratégique de Washington dans le monde arabe. Que signifie cette disparition et les implications politiques à Riyad? Nicolas Pinault a joint Elisabeth Van den Heide. Elle est chercheuse à l'Université libre de Bruxelles.
La succession a été préparée maintenant depuis quelques années. Évidemment, cette mort était attendue et sa succession préparée. C'est un roi qui n'aura régné que 10 ans, mais qui était déjà au règne du pouvoir, puisque son demi-frère, le roi Fahd, lui avait plus ou moins laissé le pouvoir depuis, on va dire, 2004-2005, dû à sa santé déclinante. Déjà très impliqué dans les affaires du royaume, il s'est, on va dire, présenté comme un réformateur qui voulait s'ouvrir sur le droit des femmes, etc. Sur ce plan-là, on va dire qu'il a appliqué ce qu'on appelle la politique des tout petits pas pour le royaume saoudien, mais ça a surtout plu à l'Occident, on va dire. Par ailleurs, ce qu'il laisse vraiment de concret, c'est sa gestion du pétrole, puisque aujourd'hui l'Arabie Saoudite est excédentaire d'un budget, on va dire, de 800 milliards de dollars dû à la rente pétrolière, et ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir pratiquer des prix bas pour contrer la politique iranienne aujourd'hui.
Qui est le roi Salman qui lui succède ?
Alors le roi Salman est issu du clan des Soudéri, dont n'est pas issu Abdallah. Donc c'est son demi-frère, puisque le pouvoir se passe de demi-frère en demi-frère dans la péninsule arabique. Salman est très impliqué dans les affaires du royaume depuis les années 50. Donc c'est, on va dire, un vieux de la vieille. Il est issu d'une branche assez traditionnaliste, donc de la famille Al-Saoud, et concrètement va continuer la politique d'Abdallah, ou plus généralement du clan des Al-Saoud, même si ce clan-là est très divisé par rapport à des luttes intestines pour le pouvoir. C'est pour ça qu'on peut qualifier la mort du roi Abdallah de non-événement, dans le sens où le roi qui lui succède, donc Salman, va de toute façon ne rien changer à ce qui est prévu par rapport à l'Iran, par rapport aux réformes à l'intérieur du pays, etc.
L'Arabie Saoudite est un pays fermé que l'on connaît mal. Le royaume a-t-il entrepris de vraies réformes depuis le printemps arabe ?
C'est très difficile de réformer le pouvoir en Arabie Saoudite, dans le sens où on a un pouvoir qui est très fortement fragile entre la famille Al-Saoud et les Wahhabites, si je devais résumer, puisqu'ils se sont alliés depuis le XVIIIe siècle et que le pouvoir saoudien tient à ça. Bon, après, c'est très résumé, mais les réformes sont très lentes, puisqu'elles sont fortement liées au pouvoir religieux, qui est extrêmement puissant en Arabie Saoudite, malgré le fait que les Al-Saoud, je veux dire, ne représentent pas non plus le réformisme, et les religieux, l'ultraconservatisme, loin de là, c'est beaucoup plus flou que ça. Mais l'Arabie Saoudite est quand même une terre qui est considérée comme sacrée, et en ce moment, ils sont en train encore plus de se durcir par rapport à l'État islamique qui est en face et qui, on va dire, fait de l'ombre au conservatisme religieux de l'Arabie Saoudite.
C'était Elisabeth Van den Eyd, jointe à Bruxelles.
Chers auditeurs de VOA Afrique, restez branchés aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel, au menu de la bonne musique des îles. Nous dégusterons bien sûr quelques morceaux reggae, zouk, soca, calypso. Notre sujet de cette semaine aussi continue. D'après vous, quels sont les métiers les plus dangereux du monde et pourquoi ? Certaines professions comportent des grands risques, n'est-ce pas ? Mais on en parlera encore ce soir dans RM Show. Nous lirons aussi vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Appelez-nous donc entre 20h et 21h, temps universel, au 001 202 619 31 40. Peace, Africa!
Avant de nous séparer, le rappel des titres, Idrissa Seydoudia.
En République démocratique du Congo, le Sénat a voté un texte du projet de loi supprimant l'obligation d'un recensement avant les prochaines élections. Ce texte diverge avec celui voté en début de semaine par l'Assemblée nationale.
En RCA, célébration aujourd'hui du premier anniversaire de l'accession de Catherine Samba-Panza à la tête de la transition. Et l'humanitaire française Claudia Prisse, qui avait été enlevée, a été libérée.
Au Nigeria, la commission électorale a assuré que les élections législatives et présidentielles auront bien lieu le 14 février. C'est ce que rapporte l'AFP.
En Zambie, c'est Edgar Lungu, le candidat du parti au pouvoir, qui arrive en tête de l'élection présidentielle d'après les tout derniers résultats.
Et l'Arabie Saoudite en deuil après la mort, la nuit dernière, du roi Abdallah.
Et puis pour terminer, quel temps fera-t-il chez vous demain à Kinshasa? Il fera 30 degrés Celsius avec quelques orages. Même chose à Malabo, en Guinée équatoriale, 30 degrés avec des orages. 31 à Bamako avec plein soleil. 34 à N'Djamena demain également. Et demain, il sera autour des 6 degrés ici à Washington. C'est tout donc pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et passez un excellent week-end.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM, 91.5 FM, Bujumbura, Raga FM, 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VO.